Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous reprenons nos méditations sur la vie de Joseph, un personnage important dans l'Ancien Testament qui apparaît dans le livre de la Genèse.
Pour nous accompagner dans nos réflexions, Flavien, qui est ancien d'une église située dans le sud de la France, vient nous retrouver.
Mais d'abord, Yann va introduire le thème d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous allons continuer à nous pencher sur la vie de Joseph et nous allons, entre autres, parler de sa femme et de ses enfants. Mais Flavien va nous en prendre davantage à ce sujet.
Il nous est donné un petit aperçu sur la famille de Joseph durant ces 7 années pleines d'événements. Le Seigneur non seulement fit prospérer Joseph dans son travail, mais aussi chez lui, car il donna 2 fils à Joseph et à sa femme Asénath. Le premier fils fut Manassé. Joseph nous donne la raison du choix de ce nom. Yann, s'il vous plaît, pouvez-vous lire Genèse, chapitre 41, verset 51 ?
Oui, nous lisons. « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. »
Vous voyez, la racine hébraïque du mot « Manassé » est « oublié ». Joseph reconnaît ainsi la bonté de Dieu envers lui et l'abondance dont il le couvre à présent, lui faisant oublier toutes les années difficiles qu'il a vécues. Quant au deuxième fils de Joseph, il l'appela Éphraïm. Selon l'explication que Joseph nous donne en Genèse 41, verset 52. Yann, s'il vous plaît, pouvez-vous nous la lire ?
Oui, bien sûr. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction.
La racine hébraïque d'Éphraïm est 2 fois fertile. Joseph exprime ainsi une fois encore sa reconnaissance à Dieu pour ses bénédictions tout au long de sa vie. Il remercie Dieu, dénué de tout orgueil, et déterminé à ne pas s'attribuer une quelconque gloire pour ce qui s'est passé. Car la gloire ne revient qu'à Dieu seul. C'est assez instructif d'entendre Joseph décrire son passé comme « toute mon affliction » et l'Égypte « le pays de mon affliction ».
Et pourquoi nous est-il précisé cela ?
Les mots que Joseph utilise nous montrent bien le degré de souffrance et d'affliction qu'il endura toutes ces années. Car ces années le marquèrent profondément, et son attitude n'en est que plus admirable. Ce ne furent pas des années faciles pour Joseph, et il n'en est que plus reconnaissant au Seigneur de l'avoir délivré et de le bénir maintenant si abondamment. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à ses yeux.
Et le témoignage de Joseph prouve qu'il est réellement un homme de Dieu.
Et c'est encore là où nous sommes appelés à imiter Joseph, en remerciant le Seigneur pour sa bienveillance envers nous.
Flavien, que se passe-t-il après les 7 années d'abondance ?
Ainsi que Dieu l'avait dit, les 7 années de famine commencèrent quand les 7 années d'abondance arrivèrent à leur terme. La famine non seulement frappa l'Égypte, mais aussi tous les pays environnants. Ces derniers n'avaient personne qui les avait préparés à survivre pendant la famine comme Joseph l'avait fait en Égypte. Ils se tournèrent donc vers l'Égypte pour obtenir du blé. Nous comprenons maintenant pour quelles raisons Joseph avait demandé qu'un 1/5 des récoltes soit emmagasiné, et non pas 1/7. Il y avait maintenant assez de blé pour partager avec les nations environnantes.
Ce qui prouve encore une fois la sagesse et la bonté de Joseph.
En effet, les Égyptiens commencèrent aussi à souffrir de la famine et crièrent à Pharaon pour qu'il leur vienne en aide. Pharaon alors les dirigea sur Joseph, qui devient, sous la bonne main de Dieu, le sauveur de la nation. Il leur indiqua où obtenir du blé, ce qu'ils firent sans hésitation, ni murmure, ni plainte. Ils furent contents et rassurés de savoir que Joseph avait planifié toutes choses pour subvenir à leurs besoins et leur permettre de se nourrir. Dans ce temps de trouble, il y avait donc de l'espoir parce que Dieu avait agi.
Quel soulagement!
Oui, en effet, et Pharaon nous enseigne une leçon dans la façon dont il s'est comporté dans ces circonstances. Il savait qu'il ne pouvait pas sauver les gens. Par contre, Il réalisa que Joseph pouvait le faire. C'est pourquoi il les dirigea vers lui. Nous pouvons comparer cette situation à ce que chaque personne qui suit le Seigneur doit faire.
Et comment ?
Eh bien, beaucoup de gens autour de nous se trouvent dans la famine spirituelle. Ils n'ont ni paix, ni espoir, ni joie à cause du péché qui habite leur cœur. Ils ne possèdent pas non plus d'assurance quant à leur avenir. Ils ne sont pas préparés à faire face à la mort et au jugement qui s'ensuit.
Et que devons-nous faire en tant que chrétiens ?
Eh bien, en tant que disciples de Jésus, nous devons diriger ces personnes vers le seul qui possède la solution à tous leurs besoins, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Sauveur du monde, le seul que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est vers lui que nous devons diriger hommes et femmes, jeunes et vieux, comme Pharaon dirigea le peuple affamé vers Joseph. Cependant, il y a ici une différence fondamentale.
Et quelle est-elle ?
C'est que ceux qui viennent au Seigneur n'ont rien à payer pour obtenir miséricorde et salut. Le Seigneur offre le salut gratuitement. Nous pouvons encore apprendre une autre chose de Joseph. Il n'accumula pas de nourriture pour lui-même, ni pour sa famille, ni pour Pharaon et ses serviteurs. Il n'abusa pas non plus des privilèges qui lui appartenaient. Il était un homme dépourvu d'égoïsme et d'avidité. Il était plein de compassion et d'intégrité.
C'est réellement un homme de Dieu, mais aussi un exemple à suivre.
Tout à fait, Yann. Joseph savait qu'il était un homme qui devait rendre compte de ses actes à Dieu. C'était vrai aussi bien dans ses circonstances adverses que maintenant, dans sa nouvelle situation de prospérité. Voilà pourquoi il vivait chaque jour pour le Seigneur. Or, ce qui était vrai pour Joseph doit l'être aussi pour nous.
Pouvez-vous vous expliquer ?
Nous devons tous rendre des comptes à Dieu de la façon dont nous vivons, quelles que soient nos circonstances, favorables ou non. Nous devrons rendre compte aussi de toutes nos paroles. Que le Seigneur nous donne de devenir des hommes et des femmes comme Joseph. Et si nous ne sommes pas comme lui, et que nous avons failli dans la manière dont nous avons mené nos vies jusqu'à présent, nous pouvons et nous devons nous repentir maintenant, en confessant tout ce que nous avons fait de mal, tout en recherchant la miséricorde et la grâce du Seigneur pour nous pardonner nos péchés et transformer nos vies afin qu'elles le glorifient. Cependant, le fait que Genèse 41 se termine par les mots « La famine était forte dans tout le pays » nous prépare à la prochaine et fascinante phase de l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph. En effet, le pays où le père et les frères de Joseph vivaient, le pays de Canaan, était aussi touché par la famine.
Et nous devons attendre les prochaines émissions pour découvrir ce qui va se passer. En attendant, nous savons ce que le Seigneur attend de nous. C'est que nous aussi, nous le servions à l'exemple de Joseph.
Passons tout de suite à notre méditation biblique. Nous allons réfléchir aux paroles de Jésus prononcées lors de sa conversation avec un homme nommé Nicodème.
Écoutons dans un premier temps l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 17. Jésus s'adresse à Nicodème et dit
« Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. »
La dernière fois, nous avons appris que Jésus fut crucifié afin que ceux et celles qui croient en lui puissent passer de la perdition à la vie éternelle.
Oui. Et je voudrais poursuivre avec une illustration. Imaginons deux rives séparées par un torrent. Sur l'une, les personnes vivent heureuses, en paix, elles jouissent de la justice et de la sécurité. Sur l'autre, les gens sombrent dans le mal et ils en récoltent toutes les conséquences. Comment donc franchir ce torrent pour permettre à ceux qui mènent une existence misérable de vivre une vie épanouissante? Pour cela, il faudrait construire un pont. Voilà une image qui représente la situation spirituelle des hommes dans laquelle le torrent symbolise le mal commis par les hommes. Or, ce torrent sépare ces hommes de Dieu. Ils souffrent parce qu'ils vivent sur la rive où le mal est pratiqué, tandis que Dieu vit de l'autre côté. Pour franchir ce torrent et pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il faudrait construire un pont. Nous pouvons donc dire que ce pont, c'est Jésus mort sur la croix. Car il faut passer par le sacrifice de Jésus pour renouer une relation épanouissante avec Dieu, et aucun autre moyen n'a été donné aux hommes par lequel ils peuvent entrer dans sa sainte présence. Poursuivons encore avec une autre illustration. Dans les forêts tropicales, il peut arriver que l'on se trouve devant un pont, mal entretenu et en mauvais état. On s'interroge alors légitimement sur sa solidité, s'il peut supporter notre poids, s'il ne risque pas de céder et nous faire tomber dans le torrent qui serpente en contrebas. C'est pourquoi, avant de traverser un pont, faut-il être certain qu'il est en bon état? Faut-il croire que l'on peut l'utiliser? Faut-il lui faire confiance? Autrement dit, la traversée d'un pont relève d'un acte de foi. De même, pour recevoir la vie éternelle, il faut croire que seul Jésus-Christ a pu régler le problème du péché. Il faut mettre sa foi en lui pour recevoir le pardon qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Mais soyez rassurés, chers amis, Jésus-Christ n'est pas comme un pont bancal qui n'inspire pas confiance. Non, au contraire, Jésus est comme un pont bien solide. Des millions de gens peuvent en témoigner. En passant par lui, nous pouvons trouver Dieu et recevoir la vie éternelle.
Il est étonnant que Dieu ait pourvu un tel moyen de salut lorsque nous considérons notre manière de nous conduire envers lui.
Effectivement, mais rappelez-vous le verset qui affirme « Dieu a tant aimé le monde ». La croix de Jésus-Christ nous prouve jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Car il a donné aux hommes ce qu'il avait de plus précieux afin de régler un problème, celui du péché, dont nous sommes tous responsables.
Merci Jean-Marc de nous avoir donné une fois de plus un aperçu de l'amour insondable de Dieu.
Nos deux séries se terminent aujourd'hui et nous remercions Flavien et Jean-Marc pour la richesse des enseignements bibliques qu'ils nous ont apportés.
Et nous prions pour que la parole de Dieu puisse porter des fruits dans votre vie.
Alors nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.